Alors, nous lisons dans le livre des juges, et nous allons lire tout le chapitre premier. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera le premier comté cananéen pour les attaquer ?» L'Éternel répondit « Juda montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Juda dit à Siméon son frère « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage, et Siméon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens, les Phérésiens, et ils battirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent à demi-Bézek à Bézek, ils l'attaquèrent, et ils battirent les Cananéens, les Phérésiens. À demi-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent, et le saisirent. Ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant d'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient Hébron, appelé autrefois Kiriath Arba, et ils battirent Seshai, Aïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appela autrefois Kiriath Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille à Ksa pour femme, celui qui battra Kiriath Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, sa cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de son âne, et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ? » Et elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda dans le désert du Juda au Midi d'Arabe, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda se mit en marche avec Siméon son frère, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Tsepha, et ils dévouèrent la ville par un service et on l'appela Orma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Axalon de son territoire et d'Ekron de son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne fut chassé les habitants de la plaine parce qu'ils avaient du char de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et on chassa les trois fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitèrent à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Bethel. Et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Bethel qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville et lui dirent, montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville et nous te ferons grâce. Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville et ils frappèrent la ville du tranchant des pays, mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hessiens et bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shem et des villes de son ressort, de Tanakh et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Jiblem et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort, et les Cananéens voulurent casser dans le pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens en tribu, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gezer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gezer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kishon, ni les habitants de Nahal, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis en tribu. Aser ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Aklal, d'Aziz, de Elba, d'Aphis, de Rehob, et les Azérites, donc la tribu d'Azer, habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath. Il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent assujettis en tribu. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan, ne leur laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Erès, à Jalon, et à Chalbim, et la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux, et ils furent assujettis en tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Sela et en dessous. Dans ce passage, il n'est pas mentionné les tribus de Ruben, de Gad, ni la demi-tribu de Manassé. Ces tribus avaient choisi elles-mêmes leur héritage en dehors de la terre promise. Avant de traverser le Jourdain, ils avaient vu les plaines et ils s'étaient dit que ce serait quand même très bien pour nos troupeaux. Et ils n'ont pas traversé le Jourdain avec leurs frères. Ils sont restés en deçà du Jourdain. Et ces deux tribus et la demi-tribu de Manassé illustrent les chrétiens charnels qui ne sont pas séparés du monde et qui manifestent que tout ce qui est dans le monde, 1 Jean 2, verset 16, tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. La convoitise des yeux, leur vue a été attirée par le grand pays de Galad, par Gézer. La convoitise de la chair, ça je le veux pour moi. J'en ai envie, peu importe les conséquences, je le veux. Et l'orgueil de la vie, des grandes terres, de grands troupeaux, des grandes richesses, des grandes richesses. Mais il s'agit ici des richesses du monde. À la fin du livre précédent, le livre de Josué, ce conducteur du peuple avait choisi, avait placé un choix devant les fils d'Israël, Josué 24, verset 14 et 16. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les deux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Nous retrouverons aussi cela au verset 18. Nous aussi nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Au verset 21, le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Au verset 24, et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Et nous venons de lire ce premier chapitre du livre des juges, et force nous aide de constater que la situation est bien différente que ce que le peuple avait déclaré. Ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel. Premier verset que nous avons lu dans ce chapitre des juges, juge 3, verset 1, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel pour savoir qui allait monter en premier. L'Éternel dit Judas. Judas montera en premier. Pourquoi est-ce que Judas sollicite Jumet ou Siméon pour l'accompagner? Alors, on pourrait dire que il y a peut-être une raison pour cela, que Judas se sentait un petit peu faible, avait peut-être pas tout à fait la foi totale ou la confiance en Dieu totale pour aller tout seul. Mais il y a une autre raison. Siméon, sa part de Siméon est à l'intérieur du territoire de Judas. Pour pouvoir rentrer dans sa part, dans sa portion, Siméon est obligé de traverser une partie du territoire de Judas. Et on le lit dans Josué 19, verset 9. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Judas, car la portion des fils de Judas était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent à l'heure. Par contre, la prise de possession de la part de Judas est conforme aux instructions reçues par Moïse de la part de Dieu, et nous le lisons dans Deutéronome 7, verset 2. qui dit « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura livrés entre tes mains, et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point l'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce. » Alors il est dommage que Judas, pour sa gloire, pour la gloire de son peuple, l'orgueil de la vigne, humilie le roi Adoni-Bézek en lui coupant les pouces des mains et les pouces des pieds, si on fait un estropié et un infirme total, alors qu'il devait simplement lui ôter la vie, c'était les ordonnances de l'Éternel. Et c'est dommage qu'ils ont perdu courage face aux chars de fer des habitants des plaines, parce que ils ont simplement oublié une délivrance que l'Éternel avait faite pour eux quelques mois, peut-être quelques années auparavant, en affaissant les murailles de Jéricho, sans que le peuple d'Israël ait à grimper sur les murailles ou à rentrer dans la ville par leurs propres moyens. Et nous ne devons pas oublier les délivrances que l'Éternel nous a déjà accordées, les petites ou les grandes, parce qu'il est toujours capable de reproduire des choses extraordinaires dans chacune de nos vies. Benjamin dispose d'un tout petit territoire. C'est vraiment un des tout petits territoires que Benjamin a eu à disposition. Et malgré ce petit territoire, il n'arrive pas à en prendre possession. Il n'arrive pas à chasser les Jébusiens. Et ces Jébusiens ont habité la forteresse malgré que Benjamin était là, et Benjamin a donc habité avec les ennemis de Dieu. Les fils de Joseph, ici Ephraïm, utilisent un habitant de Luz pour entrer dans la ville, alors que nous avons lu que l'Éternel était avec eux. Pourquoi cet égarement? C'est la faiblesse humaine. Il laisse la vie sauve à cet homme alors qu'il ne devait pas lui faire grâce, comme nous l'avons lu dans Deutéronome 7. Et puis alors ils permettent à cet idolâtre de partir avec sa famille, de créer une ville et de se multiplier dans cette ville. Et la situation de cet homme, c'est une illustration marquante des conséquences de nos erreurs et de nos désobéissances à la parole de Dieu. La demi-tribu de Manassé imite Benjamin, ne chasse pas les habitants de leur héritage. Nous avons lu les Cananéens voulurent rester dans le pays. C'est comme s'ils avaient négocié la situation, position pour une fois contraire à la volonté de Dieu, position contraire à ce que les fils d'Israël avaient dit en disant « Nous ferons tout ce que l'Éternel nous a dit ». Et même lorsqu'ils sont devenus forts, ils ne les ont pas chassés, ils les ont affermis, parce que ça leur avait une certaine utilité. Et la tribu d'Ephraïm a fait la même chose, les Cananéens habitèrent au milieu d'eux, elles laissent le mal présent dans sa vie, dans sa maison. Voisin, la situation semble identique, alors que pas du tout. Les Cananéens ont habité au milieu de Zabulon. Ici, ce sont les Azérites, la tribu d'Azer, qui habitent au milieu des Cananéens. Donc, ils vont habiter dans le monde, avec le monde. Et c'est une situation identique pour la tribu de Nephtali, qui habita au milieu des ennemis du peuple de Dieu. La position des Danites est pire, cette tribu est repoussée par les Amoréens dans la montagne. Et même là, il subsiste des ennemis qui voulurent rester, même situation, qui voulurent rester, ils n'ont pas voulu partir, donc ils disent, on aimerait bien rester, bon alors d'accord, vous restez, et ils ne sont pas chassés. Et alors, les amis sont étouffés, complètement égarés par ces habitants du pays. Nous avons lu que les Danites ont été repoussés dans la montagne. Et nous avons lu que les Amoréens voulurent rester à Areret, à Jalon et à Chalbim. c'est les deux extrémités de leur territoire dans la montagne. Ça veut dire que même dans la montagne, ils ont été en présence de ces idolâtres qu'il fallait détruire. Alors la conséquence de cette porte ouverte des Danites est terrible. On va lire un passage dont l'histoire est bien plus grande, mais on va lire dans Juges chapitre 18, verset 30. C'est l'histoire d'un homme qui a volé l'image taillée de sa mère et pour s'en faire une idole, et il a engagé un sacrificateur pour faire service de son idole. Et en fait, il y a une troupe de Danites qui va arriver et qui va voler et le serviteur qui s'occupe du culte de l'idole et l'idole pour donc c'est des Danites pour en faire leur propre idole et avoir leur propre service d'adoration. Donc, Juges 18, verset 30, ils dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Guershom, fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ce qui est terrible, c'est que Guershom était un fils de Moïse. Mais la famille de Moïse n'avait aucune prérogative sur la sacrificature. La sacrificature était donnée à Aaron et à ses fils. Et à cet endroit, donc dans cette tribu de Danites, qui est complètement environnée par le mal des Amoréens, il y a quelqu'un qui veut faire semblant d'adorer, mais il adore un faux dieu avec un faux prêtre, un imposteur qui n'a aucune raison d'être prêtre. Et ils adorent une image taillée, et malgré que le prêtre est le petit-fils de Moïse, voilà, ça dérange plus personne, on est complètement dans l'égarement total, on ne peut pas plaire à Dieu avec la foi de nos parents. On ne peut pas servir Dieu avec la foi de nos parents ou de quelqu'un de notre famille. C'est pas possible. Et en résumé, dans ce chapitre, dans ce premier chapitre 1 du livre des Juges, nous avons un reflet de la situation de la chrétienté aujourd'hui. Il y a des églises qui accueillent des chrétiens qui ressemblent à ses amis, ou qui ressemblent à la tribu de Zabulon, qui ressemblent à la tribu d'Azer, etc. Il y a une partie de ces chrétiens, une partie de ces adorateurs qui sont un noyau fidèle. Il y en a, heureusement, grâce à Dieu. Et puis, il y a une partie du peuple de Dieu qui domine sur les ennemis, alors que ces ennemis auraient dû être détruits. Et les chrétiens sur la terre ne peuvent pas être fidèles à Christ s'ils dominent sur le monde. Une autre partie accepte la cohabitation avec ce monde et s'établir au milieu d'eux. Comment avoir la sagesse, comment avoir du discernement spirituel lorsque l'on partage sa vie, ses loisirs, ses amitiés avec des incrédules ou des moqueurs? Comment plaire à celui qui a donné sa vie pour vous sauver en étant au milieu des incrédules? Et puis il y a plus grave encore avec ces fils de Dan qui sont repoussés par les Amoréens. Nous avons ici la victoire de l'ennemi qui a réussi à dépouiller les chrétiens de la jouissance de leur héritage. Ils n'ont plus rien, plus aucune référence, plus aucune relation avec les instructions divines, et ils ont perdu toute leur valeur spirituelle. Alors rappelons-nous que la tolérance vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ce que tout le monde nous offre, c'est refuser de donner à Christ la suprématie dans nos vies, dans notre église, dans nos maisons. La tolérance vis-à-vis de tout ce que le monde nous offre, c'est refuser de donner la première place à Jésus-Christ dans mon cœur, dans ma maison, dans mon église. Et puis, heureusement, il y a Caleb. que j'ai gardé pour leur fille. Caleb s'est préparé durant 45 ans, soit durant toute la traversée du désert et durant les premières années de conquête du pays d'Israël. Et pendant ces 45 ans, il a rêvé à ce territoire de Hébron. Caleb a 80 ans et dit à Josué, je suis vigoureux comme au jour où Moïse m'a envoyé avec toi, il dit à Josué, avec toi, parce qu'ils étaient les deux, avec 10 autres espions. Et Caleb, dans le livre de Josué, avait demandé que la portion qui avait terrifié les 10 autres espions, que cette portion, elle puisse lui être donnée en héritage. Dans Josué 14, verset 13, on lit « Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. » Josué 15, versets 13 et 14, « On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kiriath Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Shéphaï, Aïama et Talmaï, enfants d'Anak. » Il y a quelques années, j'ai déjà parlé des géants. Il y a dans la Bible un roi qui s'appelait Og, roi de Bazan, qui avait un lit de fer. Et la Bible donne les dimensions de ce lit. Ce lit fait 9 coudées de long et ce ferreur 4 de large. Donc environ 4 mètres et demi de long et environ 2 mètres de large. Et à l'époque, j'avais projeté une image qui est le cycle de Manpower, de l'homme qui est comme ça dans un cercle, qui est en fait le dessin de Léonard de Vinci. Et par rapport à un géant qui se couche dans ce lit-là, nous on est là-dessus. Donc quand les fils d'Israël disent on était comme des sauterelles à leurs yeux, c'est pour dire que les fils d'Israël avaient ça devant eux. Donc il y a 10 espions qui ont été terrifiés. Et Caleb, il veut, parce qu'il dit, l'Éternel a promis, donc moi je veux aller avec la force de l'Éternel d'Anne. Alors, ces enfants d'Anak et les Anakim sont les figures de Satan dans ce monde. La puissance du monde, des géants, comme j'ai dit, aux yeux desquels le peuple était comme des sauterelles. Jean 16, verset 33. Un verset. Jean 16, 33, je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Et si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, nous vaincrons le monde avec lui. Eh bien, c'est ce que fait Caleb. Il prend courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, et par là, il montre l'exemple à Othniel et à toute sa famille. On l'a lu, Juges 1, versets 12 et 13. Caleb dit, je donnerai ma fille à Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath Sefer, qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, son nom pareil, Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Aksa, la fille de Caleb était peut-être très belle pour Othniel Ris, sa fille, face à des géants pour elle. Mais surtout Aksa, elle est très sage. Dès qu'elle est rentrée chez son mari, je pense que dès qu'elle est montée sur l'âne de son mari, elle est rentrée chez son mari, elle pousse son mari à demander un chant à Caleb. Et son mari demande le chant et Caleb lui dit, voilà, le chant. Alors elle descend de son âne et son père lui dit, mais qu'est-ce que tu as là? Tu m'as donné une terre du midi. Donne-moi des sources d'eau. Elle dit pas donne-moi une source d'eau. Elle dit donne-moi des sources d'eau. Et la suite du verset montre que Caleb a donné le champ pour sa dot et lui a donné aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Caleb, Othniel et Aksa sont deux beaux exemples d'hommes et de femmes de foi. Caleb l'avait déjà démontré en faisant taire toute l'assemblée d'Israël, en Nombre 13, verset 30, il avait dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Et là, le peuple avait failli les lapider, et finalement, l'Éternel avait fait faire demi-tour au peuple et les avait laissés mourir dans le désert pendant 40 ans, sauf Josué et Caleb. Et Caleb est un exemple pour sa famille. On peut penser, puisque tous sont morts, sauf les enfants de ceux qui avaient été plaints, on peut penser que le père d'Othniel est mort aussi, certainement. Et alors que c'est Caleb, son oncle, qui a élevé Othniel avec Aksa, et Caleb devait leur raconter ce qu'il avait vu, comment était le pays, comment Dieu allait les aider à vaincre ces géants immenses. Et Othniel, comme sa cousine Aksa, vont être nourris, instruits par Caleb, qui leur transmet son exemple. Mais certainement aussi, leur raconte toutes les délivrances que l'Éternel avait accordées à ce peuple pour sortir d'Égypte, pour traverser la mer Rouge, pour engloutir l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Toutes ces victoires, toutes ces délivrances, il a dû leur parler le soir, ou durant la journée, quand ils étaient au désert. Avec ce qu'ils ont appris de Caleb, ils savent que placer sa confiance en la puissance de Dieu est la seule source de bénédiction. Dans sa victoire contre l'homme fort, Othniel est une figure du Seigneur Jésus, qui s'est acquis une épouse, un peuple composé de tous les croyants, en vainquant l'homme fort à la croix et en ressuscitant. Aksa est une figure de l'assemblée, de ceux qui sont lavés dans le sang du Christ, mais qui pour un temps marchent dans le désert, traversant une terre aride et desséchée. Et Aksa est un bel exemple pour nous, qui sommes dans cette situation. Nous vivons dans un monde perdu, corrompu, où il n'y a rien pour apprendre pour nous, pour améliorer notre vie spirituelle. Nous sommes dans un désert aride, sans Dieu. Et Aksa demande des sources d'eau. Plusieurs, elle n'en veut pas qu'une. Et parce qu'elle demande, elle reçoit. Elle reçoit les sources du haut et les sources du bas. Les sources du haut sont l'image de l'œuvre de Christ et de nos bénédictions célestes en lui. Les sources du bas sont l'image de l'action du Saint-Esprit ici-bas pour ceux qui marchent par la foi encore des bénédictions. J'aimerais vous lire un psaume 84, une partie, un verset. Psaume 84, à partir du verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent se célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur face. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, donc la vallée des fleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et se présente devant Dieu à Sion. La pluie et les sources du haut, les sources du bas. La pluie qui couvre de bénédictions sur une situation triste, difficile, la vallée de Baca qui est relatée ici. Alors moi j'aimerais juste vous dire, prenons un exemple, sur la foi de Caleb, de Othniel et d'Aksa. Puisons nos forces à la source des eaux, pas dans le monde, dans le voisin, dans les copains, dans le club, dans je ne sais quoi encore. Ne nous laissons pas effrayer par les chars de fer. Ne nous laissons pas effrayer par l'opposition du monde. Ne nous laissons pas repousser dans la montagne. Ne nous laissons pas être étouffés par le monde, par les jouissances du monde, les privilèges du monde. Ne laissons pas le monde étouffer les bénédictions acquises par le Sauveur à la croix. Soyons au contraire heureux, remplis de joie, comme nous l'avons lu dans ce psaume. Plaçons notre confiance seulement et uniquement dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Recevons de lui la. De lui seul la direction pour nos filles. Et alors on saura qu'on fait chaque jour, chaque instant, chaque lui qui dirige toutes choses. Et n'imitons pas ce peuple d'Israël qui a dit avec la bouche, nous ferons ce que l'Éternel a dit et qu'ils n'ont pas fait. Peut-être c'est mieux de rien dire et de faire. Alors soyons obéissants à sa parole. Soyons conformes à son attente. Et alors, si on est conforme à sa parole et à son attente, je vous assure que les riches bénédictions que Dieu en réserve pour chacun de nous, et il en a en abondance, elles seront pour chacun de vous. Mais il faut être conforme. Il faut être conforme à son attente. Il faut être conforme à sa parole. Et il faut prier pour être conforme. Nous avons tous dans nos vies des moments très faibles, des moments très durs, des moments où on se dit, mais finalement il ne se passe rien. Je vais vous dire quelque chose. Ne fais pas exactement le mécanisme. Mais toujours est-il qu'il y a des bénédictions que Dieu ne permet pas. Parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas réglées dans nos vies. Il y a quelques mois, alors, vous savez que notre fille Cindy a eu un cancer du sein, qu'elle a eu énormément de difficultés et que son désir c'était d'avoir un enfant. Et les médecins disent, vous n'aurez jamais d'enfant, de toute façon, c'est bien trop risqué, vous allez avoir un traitement hormonothérapie, vous serez ménopausé, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Et avec Michel, on a prié pour cela. Je pense qu'on n'a pas été les seuls, parce que quand on a annoncé à nos amis ou à nos connaissances que notre fille est enceinte, en écoutant leur réaction ou en voyant leur visage, on comprenait qu'ils priaient aussi pour Cindy, parce qu'ils étaient heureux de cette délivrance. Mais ça ne s'est pas passé tout de suite bien. Les médecins ont ouvert une porte d'un an. Donc c'était une première réponse. Et pendant 10 mois, Cindy n'avait pas ses règles. Elle ne pouvait pas procréer. Et finalement, les règles sont venues. Et ils n'arrivaient toujours pas à faire un enfant. Tout allait bien. Et un jour, on est chez Cindy et Michel et avec Michel. Et moi, je dis, mais sans insister, je dis, c'est surprenant parce que Dieu a ouvert toutes les portes. Est-ce que vous êtes sûr? Il n'y a pas quelque chose dans vos vies, soit toi, Michael, soit toi, Cindy, qui n'est pas réglé. Alors, Michael, oh non, Cindy, oh non, 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 ça non, voilà. Mais une semaine après, il nous annonçait que Cindy est enceinte. Une semaine, 15 jours après. Il y a des blocages dans nos vies. C'est nous qu'on a la clé du verrou. C'est pas le Seigneur, c'est nous. Alors, Seigneur, montre-moi quel est mon verrou. Que je puisse te le mettre, te le donner. Je veux laver ce verrou dans le sang de Christ versé pour moi à la croix. Je veux être libre, je veux être pur, que tu puisses agir dans ma vie. Alors, que ce soit vraiment une ta part pour chacun d'entre vous de laisser Christ agir dans ma vie sans aucun verrou.